Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes vraiment au paradis des Romains, pour une émission à trois voix, avec deux invités que nous aimons beaucoup recevoir, car ce n'est pas la première fois que nous nous entretiendrons avec eux. On expliquera dans un instant pourquoi, mais déjà, je les cite et je les salue. Bonjour Catherine Viborg.
Bonjour Martine, bonjour à tous, bonjour à toutes.
Et Yann Le Boeck. Bonjour Yann.
Bonjour Martine et bonjour à tous les auditeurs.
Alors, nous avons la joie de les avoir tous les deux pour cette émission à trois voix, comme je le disais, parce que le 14 février, donc c'est tout récent, est sorti leur nouvel ouvrage, un ouvrage de collaboration dédié à nos chers anciens, dédié à l'Antiquité et paru aux éditions LEM. Cet ouvrage, je l'ai sous les yeux, je n'arrête pas de le lire et le relire. Il s'appelle « En compagnie, au paradis des Romains ». Alors, bien sûr que le paradis des Romains, aujourd'hui encore, on sait très bien quand on va dans la région de Naples, au pied du Vésuve, à quel point cette région est enchanteresque. Et on devine bien entendu que c'était forcément le cas dans l'Antiquité. Et on comprend pourquoi tous ces Romains allaient en villégiature, je bafouille, là-bas. C'était déjà Catherine et Johan la Dolce Vita.
Oui, ça je crois qu'on peut le dire carrément, mais le professeur dit bien souvent que les Romains n'aimaient pas les excès, mais on peut dire que c'était vraiment le lieu qu'ils avaient choisi pour les commettre.
Alors, donc, on présente nos invités. Catherine Viborg, nous l'avons reçue au Forum du Livre Péplum à Nîmes pour déjà son talent de dessinatrice et de romancière. Donc, on la connaît très bien et on aime beaucoup suivre tout ce qu'elle fait de nouveau en matière d'aquarelle, d'illustration. Chaque fois qu'elle observe, et ça a été le cas dans le livre, on le voit, lorsqu'elle va au musée de la Romanité, par exemple, ça donne lieu à un travail sur une œuvre qu'elle a aperçue là-bas et qu'elle va retranscrire, interpréter le mieux possible, le plus fidèlement, avec sa patte. Donc, on est très content de la recevoir. Et j'ajoute, même si peut-être elle va m'en vouloir de me répéter, que moi, j'attends toujours la suite de ce roman qu'elle avait commis et que j'avais adoré. J'espère qu'elle n'a pas renoncé à écrire la suite.
Pas du tout, Martine. J'y travaille à ce moment même.
Bon.
Absolument. Je suis déjà arrivée à la moitié.
Bon. Alors, on ne va pas lui demander quand il va sortir parce qu'elle ne le sait pas, mais on l'encourage à continuer parce que vraiment... Est-ce qu'on sait le titre ou pas du tout ?
Non, je n'ai pas encore le titre, mais je peux dire que ce sont les mêmes personnages, mais dans de nouvelles aventures, et qu'on sera en fait beaucoup en Afrique proconsulaire, c'est-à-dire dans la Tunisie, ça correspond un peu à la Tunisie d'aujourd'hui, une partie de l'Algérie, et on va aller dans un fort romain, on va voir le travail du gouverneur, on va avoir les tensions locales autour de la présence romaine. Voilà.
Alors
et puis, bien sûr, il y aura toujours Aurélia, hein,
alors
le personnage principal.
La fille de Cotta, donc, hein, puisque c'était même le titre du premier roman qu'on avait adoré, ici à Nîmes, mais ailleurs aussi, La fille de Cotta, le roman de Catherine Viborg, que je vous encourage à aller chercher pour le lire avant que ne paraisse donc cette suite. Et ce que vient de dire Catherine nous emmène tout droit vers Yann, puisqu'elle a parlé de la Tunisie. Et notre cher Yann Le Boeck, qu'on ne présente plus tellement, il a écrit et écrit encore des ouvrages, je ne saurais même pas dire combien, mais je vais dire, pour ne pas mouiller, je vais dire plus de 50 livres, Yann, plus de 50.
Un tout petit peu moins.
Un tout petit peu moins, donc voilà. Donc, j'étais...
C'est fort pour arriver aux 50.
Bon, alors donc Yann, pourquoi je fais ce lien ? Parce qu'il est né à Carthage, en Tunisie, et cet universitaire, historien, épigraphiste, qui s'est commis aussi beaucoup à l'archéologie, est un spécialiste de l'armée romaine, de l'Afrique romaine, de l'histoire militaire, et nous l'avons déjà beaucoup constaté. Alors, la question que je vous pose, alors je vais quand même rappeler, Yann, vos deux dernières parutions, Les grands généraux de Rome et les autres chez Talandi en 2022, et en 2023, Vercingétorix, stratège et tacticien chez Talandi aussi.
Oui, je ne suis pas sectaire, il n'y a pas que l'Afrique romaine et que l'armée romaine, il y a aussi Vercingétorix et oui. Quelques autres.
Oui, et on avait aussi apprécié votre ouvrage sur le général Lucullus. Donc, effectivement, on est dans l'univers de l'Antiquité, en tout cas.
Et Lucullus, nous le retrouvons en Campanie.
Alors, bien entendu. Alors, le lien est parfait, justement. Alors, je voulais vous demander à tous les deux, donc essayez de parler l'un après l'autre, mais je sais qu'à quel point vous êtes disciplinés tous les deux. Comment est née l'idée de cet ouvrage collectif dont je rappelle le titre, En Campanie, au paradis des Romains? Alors, qui veut répondre en premier?
Je peux peut-être dire que j'étais éblouie. Voilà, tout simplement, pour moi, c'est ça. J'ai été éblouie par cette région. Et il y a très longtemps, j'ai fait un séjour justement là. Et je suis allée au Musée archéologique national de Naples. Et j'ai failli ne pas en sortir. C'était tellement extraordinaire. C'est un très, très beau musée. Il est très bien agencé. Et ça a ajouté, bien entendu, à la visite de Pompéi, d'Herculanum et d'Oplontis, qui est très belle, et de Stabie, j'étais totalement éblouie. Bien sûr, Capri est très beau aussi. Je veux dire, toutes ces îles sont magnifiques. Et quand l'expression voir Naples et mourir, qui maintenant n'est peut-être plus tellement utilisée, mais je ne veux pas mourir, bien entendu, mais c'est franchement un des plus beaux voyages que j'ai jamais fait.
Donc, un éblouissement devant la beauté oui. du site, la beauté des œuvres. Et oui. comment est née cette idée d'un livre que je ne saurais qualifier parce qu'il est à mi-chemin entre livre d'art et livre d'histoire?
Écoutez, en fait, j'ai demandé à Yann de m'aider parce que j'étais éblouie, mais il fallait quelqu'un qui puisse parler bien. Justement, et de façon aussi savante que lui. Et il a très, très gentiment accepté.
Alors, donc, le propos, et je vais donner la parole maintenant, bien sûr, à Yann, mais si je suis Catherine, c'est l'envie de partager ces couleurs, ces sites, cette lumière avec les gens qui aiment l'Antiquité, qui aiment les belles choses. Et puis,
oui, Yann... la joie de vivre des Romains, c'est ça aussi qui est resté avec moi, c'est leur joie de vivre.
Et vous avez parfaitement raison, parce que quand on lit les graffitis sur les murs de Pompéi, rue de l'Abondance et ailleurs, cette joie de vivre, elle éclate partout. Les plaisanteries, la glorification de l'amour, la glorification de la vie, effectivement, on la oui. sent partout.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors, Yann...
Les bains, le vin et Vénus, c'est un petit peu...
Oui, c'est vrai.
Un petit peu, si on... Les bains, le vin et Vénus, oui, on peut dire.
Alors, ça, en tout cas, ça chante bien et ça résume bien, en effet, cet art de vivre que la préface du livre indique tout de suite. Alors, Yann, vous, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de suivre Catherine dans son envie de partager ses sites?
Eh bien, justement, j'ai partagé son admiration pour cette région que j'ai connue à une époque où elle était sans doute une toute petite fille. Et j'ai passé une semaine entière à Pompéi. J'avais un petit hôtel qui donnait sur les ruines. Je n'avais qu'une rue à traverser. J'ai passé quelques semaines à Sorrente aussi. J'ai évidemment visité Capri, Naples, Herculanum et toute la région. Et ça m'avait, une région qui m'avait charmé par les paysages. Il y a aussi, j'ai donné le goût de ce vin à Catherine, le Lacrima Christi.
Bien sûr.
Voilà. Donc, cette région m'avait beaucoup plu et puis m'avait séduit. Et quand Catherine m'en a parlé, j'ai eu l'idée de faire ce livre où il y aurait des images d'un côté dont elle serait la responsable et l'auteur, et d'autre part des textes dont je serais le coupable et l'auteur. Et c'est effectivement comme cela que se présente ce livre, de très beaux dessins dus à Catherine, et puis des textes qui les accompagne, qui les illustre un petit peu. Alors, je voudrais quand même préciser deux choses. La première, c'est que, en fait, c'est surtout le livre de Catherine Vibor. Moi, je n'ai fait qu'illustrer, qu'écrire sur ces illustrations. Puis la deuxième, c'est que vous avez parlé de Dolce Vita à propos de la Campanie. Ça n'est pas faux, bien sûr, hein, c'est le pays du vin, le pays de l'amour, le pays de la douceur de vivre, hein, d'un climat merveilleux. Mais c'est aussi une région extrêmement intellectuelle, où il y avait des plaisirs oui. intellectuels qui complétaient tout à fait les plaisirs matériels, humains, physiques. Oui, l'intelligence est humaine aussi. Les plaisirs, vulgaires que tout le monde peut apprécier. N'oublions pas qu'il y a la Villa des Papyrus notamment, et que tous ces grands hommes qui se sont rendus en Campanie, Lucullus que vous citiez tout à l'heure, qui n'est pas seulement un général, qui était un intellectuel de
Un très grand esthète, un très grand intellectuel, oui.
C'était un philosophe, un platonicien, c'était un historien, c'était un poète. Il avait toutes les qualités intellectuelles possibles et imaginables. Donc cette Campanie que Catherine Vibor a très bien illustrée, j'ai seulement apporté quelques textes, rappelé quelques anecdotes, donné quelques explications pour rendre les dessins plus compréhensibles, pour les resituer dans leur contexte.
Alors, nous reparlerons dans la deuxième partie de l'émission d'une manière plus précise de ce que j'estime, chère Yann, vous êtes très modeste, mais il y a votre patte
oui,
aussi.
Je me permets d'intervenir. Yann est beaucoup, beaucoup trop modeste.
Parce qu'effectivement, il y a des angles
tout à fait. Son texte est, comme je le disais tout à l'heure, fascinant et ça donne la juste perspective pour y aller, pour se promener dans ces endroits incroyables, préservés en. De façon incroyable aussi. Donc, non, c'est pas vrai.
Oui, alors nous verrons tout à l'heure qu'effectivement, grâce à Yann, nous entrons dans cette Campanie, en leur compagnie, je bafouille, mais c'est à peine un lapsus, par des angles tout à fait nouveaux dont nous reparlerons tout à l'heure. Moi, j'insiste aussi sur le fait qu'il y a, je disais tout à l'heure, donc les dessins, les aquarelles, les reproductions de Catherine, mais aussi, c'est la page 109 que j'ai sous les yeux, l'interprétation, dit-elle, d'un fragment de graffiti porté au mur du triclinium de la maison du moraliste. Et effectivement, à partir d'un petit bout de graffiti si touchant, qui dit « Ne tourne pas ton visage lascif vers la femme d'autrui et ne lui adresse pas de coup d'œil lubrique », conseil avisé, eh bien Catherine a imaginé une formidable illustration, un formidable dessin. Donc, il y a là une symbiose parfaite entre le texte et l'image, entre les sites et la manière dont on les vit et on les partage avec des lecteurs potentiels. J'ajouterai enfin, avant qu'on ne fasse une petite pause musicale, qu'il y a aussi quelques photos, et notamment d'un certain Christian Vibor, je crois.
Oui, c'est mon mari.
Bon, donc...
Il est très doué, je ne le dirai jamais assez.
Alors, nous marquons une toute petite page musicale, qui est même pas une page, quelques mots musicaux, et nous nous retrouvons pour parler, non pas tout raconter du livre, ça n'aurait pas d'intérêt, mais donner envie à nos lecteurs de regarder de près les images et le texte avec des angles nouveaux d'attaque sur la Campanie. À tout de suite. Thank you. Alors, voici la deuxième partie de notre émission Antiquissimo, où nous avons eu le plaisir déjà de comprendre comment Yann Le Boeck et Catherine Wiborg ont eu l'idée de ce livre, je disais, à mi-chemin entre livre d'art et livre d'histoire, sur lequel ça a l'air comme ça très facile à lire pour le lecteur, mais ça a dû être un travail considérable. Je voudrais simplement avoir une idée de combien de temps de gestation il a fallu pour cet accouchement.
Écoutez, pour moi, c'est l'aboutissement d'un travail vraiment, c'est vrai, de longue haleine. J'ai commencé à faire une partie des illustrations il y a longtemps, sans penser, si vous voulez, à un livre précis. C'est des choses qui m'avaient vraiment, des statues ou des lieux qui m'avaient vraiment interpellée, qui m'avaient fait réfléchir et puis qui m'avaient séduite. Et donc, je les ai dessinées, j'en ai peint certains. Et puis, à un moment, l'idée est venue de dire peut-être on peut les rassembler dans un ouvrage. Et donc, depuis ce moment-là où j'ai eu l'idée de rassembler ce que j'avais déjà fait, je me suis dit, il faut que je fasse d'autres choses, d'autres dessins, d'autres aquarelles. Et, il faut bien compter au moins 2 ans de travail.
Ouais, ça, je m'en doute, hein, parce qu'on le sent très bien. Mais je l'ai dit, c'est très agréable à lire. Mais déjà, ne serait-ce que alors, les matériaux dont vous venez de parler, mais aussi la manière de composer le livre. Ça n'a pas dû être évident du tout. Et j'en profite pour dire qu'effectivement, il y a un cheminement dans le livre. Il y a d'abord un chapitre, si j'ose dire, une partie où la géographie est très présente et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Yann Le Boeck a remis en perspective histoire et géographie. Ensuite, selon la chronologie et avec multitude de dessins, je ne sais pas si je les ai bien comptés, mais je crois qu'il y en a 94 en tout, on égrène l'époque républicaine. Et puis ensuite, l'époque impériale, qui est la plus nombreuse, forcément, c'est là sur laquelle, cette période sur laquelle on a énormément de matériaux. Donc, vraiment un cheminement à la fois logique, chronologique, et qui nous emmène pas à pas à voir tous les gens célèbres qui ont traversé cette campagne. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse pour dire que nous retrouverons Yann Le Boeck le 22 juin au Musée de la Romanité pour le Forum du Livre Péplum. Et j'espère que nous enregistrerons pour l'occasion Catherine, qui ne sera pas disponible, mais j'aimerais bien faire d'elle une petite vidéo à montrer le 22 juin, puisqu'ils parleront eux aussi de la compagnie et de leurs livres lors de ce Forum du Livre Péplum du 22 juin. Mais revenons aux détails et aux angles nouveaux que j'avais envie qu'on dessine. Par exemple, alors, je vous l'ai dit, il n'est pas question qu'on raconte tout le livre, mais j'ai trouvé très original l'attaque sur les marins de Mycène, le port de Mycène, le commandement avec l'amiral et la mort du savant. Là, j'ai un petit peu amalgamé beaucoup de choses, mais cette manière de voir, on ne l'avait pas trouvée ailleurs.
J'ai réagi en historien géographe que je suis, et c'est pourquoi j'ai commencé par ce tableau géographique que vous mentionnez. Évidemment, ce n'est pas de la géographie très érudite, hein. Il n'y est pas question de géomorphologie ou de statistique, tout simplement de présenter un cadre géographique qui est exceptionnel. La mer, le Vésuve et toutes ces villes, et le réseau routier aussi, qu'il ne faut pas oublier.
Bien sûr.
Et ensuite, effectivement, je me suis laissé aller à une de mes faiblesses qui est la chronologie. Je n'ai jamais pu concevoir de l'histoire qui ne soit pas chronologique. Donc effectivement, la République d'abord, le Principat ensuite. Et j'ai essayé, pour illustrer les dessins de Catherine Wiborg, d'abord de rappeler des éléments essentiels. On ne peut pas passer sur Hannibal à Capoue, Spartacus, Crassus, l'empereur Auguste, Tibère, Néron et sa maman, et qui l'a fait tuer, oui.
En s'y reprenant à deux fois. Hein.
Pardon ?
En s'y reprenant à deux fois, parce qu'elle était coriace et maligne.
Oui. C'était une dame difficile à tuer. Donc, je ne l'ai pas choisi, il s'est imposé de lui-même. Et j'ai essayé à chaque fois, ce n'est pas une histoire continue. Hein. Ce n'est pas une histoire, oui. Un endroit, où vous, un livre où vous trouverez tout sur la Campanie, mais vous y trouverez ce qui m'a paru essentiel, ce qui m'a paru important, avec d'une part des anecdotes un petit peu originales. Par exemple, combien Spartacus emmené à Capoue pour y devenir gladiateur, et en fait, il n'a jamais été gladiateur, contrairement à ce qu'on dit.
Voilà.
Il n'a pas attendu qu'on le tuer. Ou aussi des éléments un petit peu originaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Par exemple, restons à Capoue, il s'agit des fameuses délices de Capoue. On sait qu'après la bataille de Cannes, Hannibal et ses soldats sont allés s'installer à Capoue et que les soldats y ont connu des délices, c'est-à-dire des lits de plumes, des femmes, du vin et de la nourriture et du repos. Alors, les auteurs de l'Antiquité, Tite Live le premier, ont dit que c'était abominable, que ces plaisirs ont affaibli les soldats, moralement, ça n'est pas bien, ont-ils dit. En réalité, je pense que, je l'ai écrit ailleurs et je l'ai redit ici, je pense que c'est ce qu'on appelle, à l'heure actuelle, un SAS, pour éviter le stress post-traumatique. Le SPT,
oui.
C'est-à-dire, soldats d'Hannibal avaient vécu des horreurs et des moments très difficiles, et ceux qui s'en étaient sortis avaient tous, plus ou moins, à un moment ou à un autre, cru qu'ils y resteraient. Et donc, il fallait qu'ils récupèrent. Et c'est... Alors évidemment, Hannibal n'avait pas fait d'études de psychiatrie, il a ressenti ça simplement de manière empirique et il a très bien traité ses soldats. Voilà, donc ce sont ces deux aspects que j'ai voulu amalgamer, utiliser. J'ajouterai, parce qu'il n'est pas présent, je fais une parenthèse où je reviens à un autre sujet, que ce livre a obtenu une préface de,
oui,
Gilles Sauron,
oui,
qui est un grand archéologue à l'heure actuelle, qui est retraité comme moi et qui connaît parfaitement bien toutes ces questions. En plus, il a relu mon texte et m'a demandé d'y ajouter un petit paragraphe sur Herculanum, où l'on a retrouvé récemment, je le savais mais je n'avais pas pensé à le mettre, on a retrouvé récemment des corps de personnes qui sont mortes dans l'éruption du Vésuve, et en particulier un soldat avec, oui, tout son armement.
Effectivement. Alors de ça, il sera beaucoup question le 22 juin au Forum du Livre Péplum, et nous attendrons toutes vos lumières à ce sujet encore, cher Yann. Donc, je disais tout à l'heure, des angles nouveaux, et vous venez d'en faire la preuve. Donc, l'idée qu'on parle beaucoup du port de Mycène, de la navigation, des marins, de la manière dont s'organise le commandement. De sorte que, bien sûr, il y a ce qu'on trouve dans d'autres livres, la mort du savant, mais présenté d'une manière différente. Et puis, les empereurs. Alors, comme vous le disiez, pas tous les empereurs, mais en particulier, je vais citer Auguste, parce que lors du défilé de mode antiquisant que nous allons organiser à Nîmes très bientôt, justement, il sera question de cette ville de Nola, en Campanie, où l'empereur Auguste a choisi de mourir.
Il n'a pas choisi, oui, de mourir, hein, on meurt nécessairement.
Mais il s'est retiré quand même là-bas, hein, pour mourir.
Ah oui, parce que je suis méchant. Il s'est retiré là-bas et il est mort, après avoir prononcé la phrase terrible et célèbre « Ai-je bien joué la comédie de la vie ?»
Effectivement, il avait réussi à mettre tout ça parfaitement en scène, y compris le pouvoir impérial, puisqu'il a eu l'idée géniale de créer ce culte. Alors, vous parlez d'Adrien aussi. Alors là, bien sûr, on a fait un bond dans le temps, on est en 397. Adrien qui se laisse mourir à Baï.
En 117.
Oui.
Oui, 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 Adrien s'est laissé mourir. C'est un personnage très étrange, difficile à connaître. À mon avis, c'est Marguerite Yourcenar qui l'a le mieux connue, bien qu'elle ne soit pas historienne, mais c'était une femme très intelligente, une très bonne romancière, et elle savait pénétrer et comprendre les humains. Et donc, Adrien est devenu empereur apparemment sans avoir intrigué. Et une fois qu'il s'est trouvé empereur, il a été confronté à de dures réalités et il a préféré parcourir l'Empire pour à la fois échapper à la pression des Romains, des citoyens romains et du Sénat, et en même temps pour son plaisir qui était de voyager. Et il s'est fait construire une villa où il a accumulé des petits bâtiments qui lui rappelaient tous les endroits qui lui avaient plu dans ses voyages.
Oui, il a refait sa géographie intérieure. Alors, l'émission arrive bientôt à sa fin, donc je voudrais simplement mentionner, il y a tellement de choses à dire, que le personnage de Poppée, la seconde épouse de Néron, est mentionné avec sa villa au Plantis. Et à chaque fois, les dessins de Catherine nous renvoient au quotidien, pas simplement à ces grands personnages qu'on vient d'évoquer, mais par exemple aux poissons, aux fruits de mer, à ce qu'on mange, à ce qu'on déguste et à toute cette végétation qui fait la richesse de la Campanie. Je vais devoir vous saluer tous les deux, vous remercier tous les deux et dire à quel point, aux auditeurs, à quel point il faut vite lire ce livre qui s'appelle donc « En Campanie au paradis des Romains ». C'est un délice pour les yeux, pour l'esprit. Et on vous dit à très bientôt à tous les deux. Merci.
Merci Martine.
À très bientôt. Merci.